Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord. Cette semaine encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille, des supporters de Lens. Et on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Les buts de Lille et de Lens à voir dans quelques minutes. Mais d'abord, le sommaire avec Lens qui a étouffé Monaco. Victoire 3-0 à Bollaert, grâce notamment à un Loïs Openda en feu ces dernières semaines. Les Sangers qui comptent désormais 5 points d'avance sur les Monégasques. 4e de Ligue 1 à 6 journées de la fin du championnat. Lille n'y arrive décidément pas chez les petits. Après la défaite à Angers, les Dogs ont concédé le nul un partout sur la pelouse d'Auxerre. Ils ont touché notamment deux fois les poteaux. Heureusement, les défaites de Rennes et de Lyon permettent aux nordistes de toujours accrocher les places européennes. Et puis on rendra hommage à la fin de cette émission à l'équipe féminine du LOSC, assurée de monter en D1 à la fin de la saison. Il reste 3 journées aux filles de Rachel Saïdi, dont un derby à Lens dans 2 semaines. On en parlera notamment avec toi, Raphaël. Bonsoir.
Bonsoir.
Évidemment, tu as suivi un peu cette équipe féminine tout au long de la saison. On parlera évidemment football avec vous trois, avec Guillaume Bataillé, journaliste à Europe 2. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et puis on parlera aussi avec nos supporters lensois du soir, Alexandre Vianne et Antoine Galinier. Bonsoir,
bonsoir
messieurs.
Salut.
Et vous aussi, vous pouvez participer à cette émission grâce notamment aux réseaux sociaux, au hashtag CopNord sur Twitter. On attend vos messages. Et on commence donc avec la victoire de Lens face à Monaco. Résumé de la rencontre avec Arthur Jean.
À Bollaert, le Racing a éparpillé Monaco 3-0 samedi soir, grâce à un homme, avant tout, Loïs Openda. Le Belge, attentif sur un ballon mal repoussé par la défense monégasque, inscrit le premier but de la rencontre. Il double la mise sur un centre fort de Deiver Machado lancé sur son couloir gauche. Openda inscrit là ses 16e et 17e buts en Ligue 1 cette saison. Avant de se permettre une passe décisive pour son coéquipier Adrien Thomasson. Avec la victoire de Marseille hier soir, le Racing stagne à la 3e place du classement.
Et on regarde donc juste d'abord les statistiques de cette rencontre avec 62% de possession, près du double de passes que leurs adversaires, 10 tirs de plus que les Monégasques. Lens qui a donc eu la mainmise sur la rencontre et notamment sur l'intensité. Les top et flop de cette rencontre, je suppose qu'on risque d'être tous d'accord sur le top, Antoine.
Openda.
Bon, on va changer, mais je vais finir en E, Medina.
Medina, ok, donc on a quasiment une unité. Openda qui fait quoi, un de ses meilleurs matchs, peut-être le meilleur match cette saison pour vous?
Bah oui, très complet dans l'intensité, on le voit sur le premier but, il lâche rien, il est là au pressing, il les a fatigués, il était partout. Et puis sur le troisième, il est altruiste au lieu de la jouer perso.
Il va mieux, il a, ça y est, on a eu un,
on sent quelqu'un qui est calme, qui est serein, ouais. Même avant le match, on voit c'est quelqu'un qui a changé. Et je trouve qu'il s'est adapté au collectif de Metz, parce que ça n'a pas toujours été très simple sa saison. À un moment, il ne jouait plus, on n'entendait plus parler de lui. Et puis ça, il a changé son fonctionnement de vie, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ça se voit tout de suite, c'est un super joueur quand il est en forme comme ça.
Bon, on peut en parler tout de suite, c'est Antoine Salva qui fait le résumé de cette saison particulière pour le buteur lensois.
Poison des défenses ou ambianceur au micro, à Lens, le polyvalent Loïs Openda régale.
C'est vrai que je suis à l'aise devant le but, ça se voit. Et puis sur le micro, avec le micro, je pense que c'est pas trop mal. Hein.
Face à Monaco, samedi, l'attaquant de 23 ans a une nouvelle fois crevé l'écran. Et précocement, deux buts inscrits en 7 minutes, contre un concurrent direct au podium. Le 4e doublé de l'international belge porte son total à 17 réalisations cette saison en Ligue 1.
Il a fait un très gros match, ça c'est sûr. Et il est décisif sur les 3 buts, il fait un très gros match par ailleurs. Mais ça fait un moment qu'il est en grande forme.
Samedi, sa performance a été ponctuée d'une passe décisive à destination de Thomasson, comme pour souligner l'importance du joueur dans le collectif de Franck Haise.
Bah, il travaille pour l'équipe, à tous les niveaux. Il travaille très bien offensivement pour attaquer la profondeur. Je trouve qu'il a progressé dans son jeu d'appui, il a progressé dans ses étagements et dans ses décrochages. Sur les timings, sur la justesse. Il est aussi important dans notre bloc équipe.
Auteur de 9 réalisations lors de la phase aller, Openda a ensuite connu un important trou d'air cette saison. Muet 8 matchs durant, l'ancien joueur de Bruges, aidé par un préparateur mental, a su rebondir.
J'étais passé par une période assez compliquée. Maintenant, je retrouve le chemin des filets. Mais bon, ça, c'est grâce aussi à mes coéquipiers qui m'aident. Tous les jours au coach et au boulot qu'on fait tous ensemble, c'est pas que moi qui travaille.
Il a jamais douté, à l'entraînement il a toujours été le même, il a travaillé et puis nous on a toujours été derrière lui, on a toujours cru en lui et là c'est vrai qu'il fait des matchs extraordinaires, mais il faut pas trop lui dire parce que sinon il faut pas qu'il s'enflamme, sinon après il va rater ses matchs.
5e réalisateur de Ligue 1 à 5 unités de Kylian Mbappé, Loïs Openda a prouvé son efficacité sur les pelouses hexagonales. On espère pareille réussite la saison prochaine en Coupe d'Europe.
Et à 6 journées de la fin, donc on a Loïs Openda à 17 buts. Pour vous, jusqu'où peut-il aller maintenant qu'il semble aller mieux?
20 buts serait pas mal. Moi, je pense qu'il peut le faire, ouais.
20 buts, c'est un objectif.
Peut-être ouais, même plus. Il peut même les dépasser.
Ouais, hein. Peut-être même plus.
Pour une première saison, c'est énorme. Hyper performant. Ouais.
Ça peut être en tout cas, on cadre rapidement le classement des buteurs. Mbappé toujours en tête, évidemment, avec 22 buts. Jonathan David, deuxième, 21 buts, dont 7 pénaltys, c'est à noter. Loïs Openda qui fait son apparition dans le top 5 avec ses 17 unités au compteur. On a donc fait un top avec quasiment l'unanimité. Le flop maintenant, pour vous? C'est plutôt pas être facile.
Les engins pyrotechniques à la 30e?
Les engins pyrotechniques à la 30e, on va en reparler forcément, Alexandre. S'il fallait un joueur.
Samba, parce qu'il a rien de mieux à faire.
Samba qui a été plus calme, un match plus calme pour lui.
Ouais, je suis d'accord, le feu d'artifice à la 30e minute. Ils étaient en feu à ce moment-là.
Le feu d'artifice.
Un joueur, ce sera Malo Gusto de Lyon.
Malo Gusto de Lyon. Ok, donc on va essayer de débriefer ça très rapidement. Donc on a dit, Samba, match plutôt calme pour lui. Les engins pyrotechniques, donc on rappelle le contexte à la 30e minute de jeu, le KSO, le COP 100 et or, qui fête son 30e anniversaire. Et on a des feux d'artifice. Tu étais d'ailleurs juste au-dessus, Antoine.
Juste au-dessus, ouais.
Tu l'as vécu comment?
Bah, c'est impressionnant, c'est vrai qu'en plus les feux d'artifice sont allés directement sur le toit du stade qui revient, donc ça résonne énormément et c'est vraiment dommage de risquer une suspension de tribune ou une sanction quelconque en sachant les matchs qui arrivent. On a Marseille, si on ferme le COP contre Marseille, c'est quand même très dommage.
Oui, parce que le match a été arrêté quelques instants, il y a un risque de fermeture partielle pour la réception de Marseille, le prochain match à domicile pour les 100 et or. Alors on sait que le club aura probablement une amende avec 1 500 € par fumigène tiré comme pour chaque feu d'artifice et la commission qui va se réunir deux fois avant la venue de Marseille et donc la première fois ce serait ce mercredi des possibles sanctions qui effectivement ne seraient pas forcément une bonne nouvelle pour les Lensois si Marek venait à être fermé ou au moins partiellement.
Oui non c'est clair.
Ouais puis ça arrivait pendant le match ou à un moment où ils étaient en feu. Francais était très 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 mécontent
oui, le match. Pour être abonné dans cette tribune, enfin là j'étais pas là, mais il y a quand même une grosse partie, mais dans beaucoup de copes en France où ils regardent pas le match, ils sont dos à la pelouse, ils ambiancent en fait. Eux ils attendaient que ça à la 30e pour.
Oui, mais il y a un risque derrière. Déjà, rentrer un engin pyrotechnique c'est pas évident dans le stade.
Apparemment les fumigènes maintenant, il faut le dire, donc ils devaient être au courant pour les fumigènes, mais les feux d'artifice je pense pas, et je dis pas du tout que c'est bien ou mal, j'espère simplement qu'il y aura pas de sanctions derrière. Après, c'est vrai que visuellement, quand t'aimes le football populaire, c'était quand même...
Mais c'est vrai que pour le spectacle, en
pour
tout cas,
pour le spectacle, l'image... mais effectivement, ça peut te plomber le rythme, comme tu le disais, si on avait pas démarré pied au plancher, juste dans la foulée.
Avec quand même quelques risques, puisque les feux d'artifice ont atterri risques, sur le toit, à l'intérieur du toit, donc ça, effectivement, ça reste tout de même assez spectaculaire. Ça, c'est pour donc l'aparté. Réponse peut-être mercredi ou jeudi. Est-ce qu'on peut parler, d'abord, pour revenir au football, du match le plus abouti des 100 heures pour vous? Parce que le Monaco n'a eu aucune occasion quasiment.
Bah, à la fin, quand même. À la fin, il y a eu quand même 2-3 occasions.
Ils ont relâché à 3-0, tu relâches un petit peu sur la fin, c'est normal.
Il y avait Danso.
On a quand même eu l'impression que Monaco, c'était Angers, quoi.
Ouais.
Donc, c'est impressionnant. Une équipe qui est rodée pour la Ligue des Champions et pour les compétitions européennes, qui se fait museler comme ça en 2 minutes et qui n'arrive pas à réagir, surtout. C'est l'incapacité à reprendre le dessus sur une équipe lensoise qui.
C'est ça.
C'est un véritable rouleau compresseur.
C'est surtout qu'on a tenu l'intensité qu'on met souvent. On dit souvent, ils ont une mi-temps meilleure que l'autre. Là, il y a eu 75-80 minutes à haute intensité, quoi. Et Sotoka, encore une fois, il a été monstrueux.
Et on rappelle qu'il y avait un des cadres qui n'était pas là,
ouais,
Samed.
Abdoul Samed qui n'était pas là.
Ouais, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu, effectivement. Il est encore suspendu pendant encore deux rencontres, l'absence d'Abdoul Samed. Donc, c'est contre Toulouse et contre Marseille. Où le milieu de terrain sera absent. Lens qui impressionne encore à domicile, on peut le dire. 43 points, 14 victoires en 16 matchs à domicile, seul un nul et une défaite. Ouais. Bah, c'est le meilleur club des 5 championnats européens, puisque donc derrière, on a City avec 40 points. Le Barça et Arsenal avec 39, Paris 38, Borussia Dortmund avec 37 et la Juve à 36 points. Donc vraiment très impressionnant ce que réussissent à faire cette année les Lensois à la maison.
Incroyable.
Ouais, c'est sûr. Puis ils maîtrisent.
Avec le spectacle en plus.
On voit, ça paraît limite facile. Ils ont joué contre Monaco, quoi. C'est les mecs qui sont juste derrière au classement et ils les ont dominés, mais on les a pas vus. C'était impressionnant. Franchement, à voir, incroyable.
C'est notre meilleure saison. Enfin, moi, de ce que j'ai vu de Lens depuis mes 8 ans, j'en ai 33 la semaine prochaine et j'ai jamais vu autant de spectacles et de résultats en fait. Parce que même quand on faisait des matchs nuls, même la deuxième mi-temps contre Paris alors qu'on perdait et qu'on allait perdre, j'ai pris un plaisir monstrueux à les regarder jouer.
Dans le jeu, c'est Francaise, c'est vraiment lui le symbole de ça, parce qu'il y a eu pas mal de départs en plus à l'intérieur du club. On parle par exemple de Kizolfi qui est parti à Nice, il y a eu le préparateur physique, j'ai oublié quelques membres du staff qui sont partis. malgré tout ce qui s'est passé en interne, Lens fait la meilleure saison depuis très longtemps.
Ils font passer le club avant tout, quoi. C'est comme on t'en parlait juste avant, Openda, apparemment dans les précédents clubs où il était un peu vexé quand il jouait pas, il prenait vite la grosse tête, et là Franquez il a dit mais non mais garçon, c'est soit tu joues comme Lens, soit tu joues pas quoi.
La gestion de Franquez.
Plus que le jeu qui est beau à regarder, t'as l'impression qu'il y a une vraie identité où tous les supporters sont représentés dans cette équipe finalement, et c'est une famille peut-être qui s'est construite au bout d'un projet de 3 ans, et c'est beau à voir d'une certaine façon.
Non, mais ils ont une capacité à se réinventer, c'est incroyable. On l'évoque souvent, c'est l'intégration de Fulgini et Thomasson.
Ouais.
Thomasson, il a fait un match extraordinaire. Et recrue hivernale.
Thomasson est énorme.
Ils ont été intégrés super facilement, et ça, c'est Franquez et son staff qui font ça.
Il restera donc 6 matchs pour conclure cette année exceptionnelle. Les dires des supporters lensois de ce plateau. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub, et on parlera ensuite du nouveau nul concédé par le LOSC sur la pelouse d'Auxerre. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler du match nul du LOSC à Auxerre. Résumé de la rencontre, une histoire de pénalty avec Clément Lanuc.
Lille lâche de précieux points dans la course à l'Europe. À Auxerre, les Dogs dominateurs ont d'abord vu Jonathan David échouer à 2 reprises sur les montants. C'est finalement avec l'aide de la VAR et cette main, suite à une tête d'André Gomes, que le Canadien trouve la faille sur pénalty passé la demi-heure. 21e but de la saison, à une unité seulement du meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé. Les Dogs pensent avoir fait le plus dur, mais ne se mettent pas à l'abri. À l'heure de jeu, cette faute dans sa surface de Rémi Cabella offre à la JA un pénalty. Mbagnang égalise, un partout, score final, et nouvelle désillusion pour Lille face à un adversaire à la lutte pour le maintien.
Les statistiques de cette rencontre, cette phrase qu'on a l'impression de répéter beaucoup cette année, dominer n'est pas gagner, 70% de possession de balle, possession encore stérile, un ballon qui a beaucoup tourné côté lillois, 679 passes contre 284 côté bourguignon, et Lille qui a tiré 14 fois pour 6 cadrés. Top et flop de cette rencontre, forcément là je me retourne d'abord vers toi Raphaël.
On commence par qui ?
Le top.
Alexandro.
Pareil.
Alexandro.
J'ai échangé Zegrova, j'ai bien aimé.
Et Zegrova qui a fait plutôt un bon match. Donc là, cette fois, on souligne la défense lilloise qui s'est plutôt illustrée, notamment Alexandro.
On voit Fonté qui a plus de mal en ce moment, et je trouve qu'il est vachement bien épaulé par Alexandro qui a un mental à toute épreuve. On l'a vu encore en fin de match où il arrive à donner un coup d'épaule en pleine surface à 1, je crois. Et il a une rage de vaincre, et c'est très beau à voir, et ça donne envie. Je trouve que ça donne une impulsion aussi défensive à toute une équipe qui est plutôt tournée vers l'offensive.
Sachant qu'Alexandro n'est pas vraiment censé être là, on rappelle la blessure de Thiago Diallo jusqu'à la fin de la saison qui fait qu'il a su s'imposer. Et là où aussi il était en concurrence avec Lenny Yoro pendant un moment, vraiment Alexandro avait disparu du groupe et revient plutôt bien, revient plutôt fort.
Il est en mode taille patron en ce moment. Il commet très peu de fautes. Au niveau de sa technique, au niveau de la relance, il est très très bon. Donc c'est, pour un défenseur, c'est pas neutre. Tous ses tacles, il les réussit. Tous ses duels, il les remporte. Il est impressionnant. Enfin, il a été très impressionnant.
On sent qu'il progresse surtout, et c'est plaisant à voir.
Et qu'il a envie en plus de travailler. Ouais. Les flops maintenant de cette rencontre. On reprend le même circuit, Raphaël.
Bamba.
Ça risque de faire l'unanimité, Bamba.
Ouais, Bamba.
Bamba aussi.
Bamba.
Je suis sur David, moi.
Et Jonathan David. Pourquoi Jonathan David ?
Il marque un but, mais sur penalty déjà. Et c'est comment dire ? Les actions qui ratent.
Le manque de réussite.
Ah ouais, c'est criant.
Il a 4 ou 5.
C'est vraiment l'image de l'attaque lilloise. Vous devez gagner 2-3-0 facile à la mi-temps. C'est pas
il fait encore 2 poteaux, Jonathan David. Ouais, lui qui les touche les plus en France, avec donc 8 poteaux pour lui cette saison. Et on en est à 19 pour les Lillois en tout. Là, c'est le plus haut score avec le PSG en France. Manque de réussite ou au final c'est les...
Moi je trouve qu'il y a du dilettantisme.
C'est un mot compliqué.
Ouais, c'est genre. C'est mon week-end était compliqué. non mais il y a du dilettantisme. On voit la double action de Zegrova. Le but il est grand ouvert. Ils doivent faire autre chose. Ils ont trop d'occasions. C'est pas possible. C'est pas que de la malchance. Ce match on l'a vu un milliard de fois avec le LOSC.
C'est quoi, c'est peur de tirer parce qu'on voit effectivement aussi, beaucoup de passes, on tourne sur la surface.
Une manière d'être devant le but peut-être, on voit beaucoup, toujours on s'empile dans l'axe, notamment en fin de match avec énormément de frustration, on s'empile dans l'axe, peut-être qu'on n'est pas dans les positions les plus adéquates pour marquer. On l'a vu la semaine dernière à Montpellier où dès qu'on passait sur le côté, on marquait facilement, donc il y a peut-être une approche différente à travailler aussi.
Mais moi je me suis dit quand j'ai vu que Lille avait ouvert le score que ça y est, ils allaient se débloquer et qu'enfin ils allaient pouvoir se lâcher parce qu'ils maîtrisaient quand même la rencontre en première période. Et on a l'impression que c'est rentré dans leur tête, quoi. Ils se disent que de toute façon, ils ne vont pas avoir de chance et ça va.
Et
ça
peut-être
va
un sentiment de supériorité par rapport aux autres équipes, parce que le LOSC, on va dire dans la majorité des cas, est supérieur à son adversaire, peut-être à part contre le PSG.
Sur le terrain, en tout cas. Tu veux
sur dire. Le terrain, ils sont supérieurs. Tout le temps, enfin pratiquement tout le temps, ils sont supérieurs au niveau de la possession, au niveau de la technique, au niveau des occasions. C'est une belle équipe, mais à chaque fois, il y a ce problème d'efficacité. Par exemple, Jonathan David, en seconde période, au lieu de mettre un piqué, je reviens sur le dilettantisme, il aurait pu faire autre chose. Il a trop d'occasions.
Donc un Lille qui a plutôt bien joué, c'était l'avis de Paulo Fonseca à la fin de cette rencontre. Écoutez.
Aujourd'hui, nous avons joué très très bien. Nous avons créé beaucoup de claires occasions. Je pense que nous devons gagner 4-5-0 aujourd'hui. Et c'est pas facile jouer contre équipe qui défend très très basse, mais c'est l'histoire de notre championnat. Avoir beaucoup d'occasions et à la fin, c'est comme ça.
Et s'il fallait rester sur les choix du coach, il fait des changements seulement à 10 minutes de la fin. Il fait notamment rentrer Wea pour remplacer Bamba, il fait rentrer Bayo. Est-ce qu'il aurait peut-être dû les faire plus tôt, ces choix? Ça aurait
pour moi, Bayo, il aurait dû le faire rentrer plus tôt, il devrait le faire rentrer plus souvent quand il y a des matchs qui vont moins bien. Parce que Mohamed Bayo, il offre autre chose que Jonathan David. Et peut-être que le jeu est peut-être un peu trop stéréotypé. Et avec Mohamed Bayo, ça offrirait d'autres pistes. Pour le LOSC.
Ouais, t'offres un vrai point d'appui, quelqu'un à la surface qu'on n'a pas avec beaucoup de joueurs techniques et polyvalents qui bougent un peu partout. Moi j'aurais aimé voir Baleba aussi qui arrive à percer des lignes par des courses, et ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec les deux Gomez qui sont plutôt doués à la passe, donc ça aurait pu être intéressant.
Baleba qui a traversé des semaines plutôt difficiles avec le décès de sa maman, effectivement il est rentré
toute fin de match.
Toute fin de match, effectivement, donc lui devrait aussi faire son. C'est de plus en plus d'apparitions en tout cas dans
Bayo, il est rentré à la 89e minute, je pense que c'est
85e.
Ouais, c'est fin de match. Peut-être un peu tard, mais après, c'est pas la faute de Paulo Fonseca. Si au 3,5 d'expected goals, c'est jamais arrivé en Ligue 1 cette saison, à part Reims, sans victoire, bien sûr.
En tout cas, voilà, donc on a vu des Lillois tenter leur chance, mais repartent donc avec un point. Avec tout de même, quand même, un point positif à retenir, c'est que Rennes s'est incliné à Montpellier, voilà. Lyon s'est incliné à Marseille, ce qui fait quand même un point de plus pris face à la concurrence dans la course à l'Europe. On fera le point d'ailleurs tout à l'heure sur le classement. On va passer à la troisième partie de cette émission avec un mot quand même du foot féminin. Hein. Bon, on va parler donc du LOSC. La victoire des féminines ce week-end 2-1 sur la pelouse du Club Athlétique Paris. Ça les assure donc de monter en D1 l'an prochain grâce à un doublé de Julie Rabanne. On va voir dans quelques instants le deuxième but lillois donc qui leur garantit cette montée. Raphaël, tu les as suivis cette saison quasi parfaite hein, pour
les deux. En fait, elle a super bien commencé dès le mercato, où il y a eu beaucoup de changements, mais des choix très intelligents. On a décidé de miser sur de l'expérience, que ce soit des anciennes du club, mais aussi des personnes qui avaient déjà joué une montée, comme Anaïs Ribera, qui malheureusement s'est blessée. Donc c'était des choix forts, des choix payants, et on sent qu'il y a un véritable groupe qui s'est construit tout au long de la saison, avec des nouvelles recrues qui apportaient de la fraîcheur, et des anciennes qui avaient la rage de vaincre.
Et forcément, la joie, la rage de vaincre, on l'a vu hein, à la fin de cette rencontre. Petit moment choisi qui font toujours plaisir à voir. Ça fait 4 ans hein, qu'ils étaient donc en deuxième division. Enfin donc le retour dans la cour des grandes en première division. Il y a le vrai projet, rester en division 1. Ça risque de pas être forcément facile, mais ça fait partie des ambitions du club.
Ah bah oui, de toute façon on n'a jamais eu un président autant impliqué. Pour le coup là, faut rendre honneur à Olivier Létang qui est très impliqué dans la section féminine comparé à Gérard Lopez qui s'en foutait clairement. Mais la dernière fois qu'on a été en D1, c'était assez compliqué, où on est descendu 2 saisons plus tard, il me semble. Donc là, ce sera un vrai combat, mais faut profiter de cette fin de saison pour aussi construire peut-être, pourquoi pas, la saison prochaine. Puis on a vu qu'on a eu une saison aussi avec beaucoup d'absentes. Donc là, ça peut être l'opportunité de vivre une nouvelle année à fond avec tout un groupe au complet. On voit qu'il
reste 3 matchs, hein, puisqu'il y a le derby à Lens le 14 mai et puis le 28 mai au Stadium. Dernier match de la saison avec la réception de Brest. Ce sera peut-être l'occasion de faire la fête et puis parler un peu du football. À noter que c'était une saison particulière en deuxième division féminine. Donc dans la poule de Lille, il y a aussi Lens. Et c'était donc une poule de 12 équipes avec 6 relégations. Lens qui pour l'instant compte 5 points d'avance sur la zone rouge. Et là aussi on espère que les Lensois puissent le maintenir. Mais c'est vrai que c'est une refonte un peu. Donc c'était une division 2 à 2 poules. Il n'y en aura plus qu'une seule l'année prochaine. Mais quand il y a 12 équipes qui jouent et 6 qui descendent, ça reste toujours une des années très particulières pour les clubs. Donc on croise les doigts pour les Lensoises. Et à noter donc que demain à 7h45, Adrien Lannoy recevra sur ce plateau Patrick Robert, le président de l'association du LOSC et puis la capitaine aussi des LOSC féminines. Et ils reviendront donc sur ce titre. Rendez-vous demain dès 7h45. On revient donc à la Ligue 1. Au classement, malgré la victoire, Lens reste 3e, toujours un point de moins que Marseille qui s'est imposé face à Lyon, et 10 points de mieux que Lille, actuel 5e. Des Dogs qui comptent 5 points de moins que Monaco et 3 de mieux que Rennes. Au programme, samedi, Lille recevra Ajaccio à 17h. Lens qui aura un peu de répit, du repos supplémentaire avec la Coupe de France. Ils se déplaceront à Toulouse mardi soir à 21h. Les autres rencontres qui intéressent nos clubs nordistes ce week-end, Lyon à Strasbourg vendredi. Et puis dimanche, Monaco-Montpellier, Rennes-Angers, Paris-Lorient et Marseille-Auxerre. Et on parle maintenant du reste du sport avec du football mais aussi du volley. Résumé de ce week-end avec Arthur Jean.
La frustration du TLM après plus de 2h30 de jeu. Vainqueur de Narbonne au terme d'une folle série de 5 matchs en quart de finale, Tourcoing se déplaçait à Tours hier pour débuter les demi-finales du championnat. Face au club 8 fois champion de France, le TLM a longtemps résisté. Pourtant, les deux premiers sets ont tourné à l'avantage des Tourangeaux, 25-22 par deux fois. La défaite aurait pu être sans appel, Tourcoing a même sauvé une balle de match avant d'empocher les deux manches suivantes. Le TLM s'est finalement incliné 15-12 au tie-break et devra absolument s'imposer mercredi soir à domicile pour s'offrir un match d'appui. Après 10 matchs, plus de 2 mois, les sourires sont de retour sur les visages des Valenciennois. À Amiens, les hommes du nouveau coach Ahmed Kantari ont tranquillement dominé la partie. Linguet à la 52e minute et Berthomi à la 71e sont les deux buteurs de la soirée. Cette 8e victoire de la saison fait du bien au moral et au classement. Valenciennes est 15e avec 3 points d'avance sur Laval, premier relégable. Et pour finir en basket demain soir, place au temps attendu au Palico entre le Portel et Gravelines. Les deux équipes se retrouvent au chaudron pour la 30e journée de Betclic Elite. Et si le SSM cherche à assurer son maintien, le BCM, lui, rêve d'une place en play-off à 4 journées de la fin de la phase régulière.
Et c'est déjà la fin de ce Cop Nord, encore une fois passé très vite. Merci Raphaël Marquand,
merci
anciennement du Petit Lillois. Merci Guillaume Bataillé, journaliste à Europe 2. Merci Alexandre Vianne et Antoine Galigné, cette fois j'ai pas oublié, tous les deux supporters du Racing Club de Lens. On se revoit très rapidement évidemment. On se retrouve nous lundi prochain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral dès 19h pour la prochaine édition de Cop Nord avec évidemment encore du football. Il n'y a pas de jour férié pour Cop Nord. Merci à Théo Dorangeon à la réalisation, merci à la rédaction d'RMC Sport. On se retrouve donc lundi prochain. Bonne semaine à tous, salut.